Oui, juste une petite rectification. Finalement, comme vous avez pu constater, on a rétabli la distanciation en fait entre les chaises, une chaise sur deux. Hein. Voilà. Le thème de mon petit message ce matin, c'est Tour forte et château de cartes. Tour forte et château de cartes. Ce n'est pas moi qui ai inventé le titre, c'est parce que j'ai eu à cœur de vous parler sur le Proverbe chapitre 18, verset 10. Et en fait, il y a un commentateur assez connu qui s'appelle Derek Kinner qui, sur ce passage, a marqué ça, Tour forte et château de cartes. J'ai trouvé que c'était très bien. Alors j'ai piqué l'idée. Proverbe chapitre 18, verset 10, vous connaissez certainement ce passage très bien et je l'aime beaucoup. D'ailleurs, on a un petit cantique là-dessus. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Verset 11, la fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer par le château de cartes, c'est-à-dire le verset 11. La fortune, l'argent, la richesse, et pour le riche, une ville forte dans son imagination, c'est une haute muraille. C'est vrai qu'il y a une apparence de sécurité, et on est bien content parfois d'avoir cette sécurité. Je pense que plusieurs parmi nous ont une assurance d'essai, une assurance tout risque, une assurance juridique, etc., etc. C'est pas du tout interdit par la Bible d'avoir des assurances. Et bien sûr, ça donne une certaine sécurité. C'est pas mal. C'est sûr que, comme on dit dans le monde, il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine sécurité apparente. On se dit, si j'ai de l'argent, ben je suis à l'abri. Et c'est le problème avec ces affirmations, c'est que c'est à moitié vrai, à moitié faux. Et c'est vrai que vous dites, ben oui, si j'ai de l'argent, je pourrais me payer, par exemple, de meilleurs soins médicaux. Je pourrais avoir accès à une clinique privée si j'ai une bonne mutuelle. Peut-être que si mon pays est en guerre civile, ben, si j'ai un bon pactole sous le coude, eh ben, je pourrais prendre l'avion et m'enfuir dans un autre pays. Et je pourrais peut-être être citoyen ailleurs, comme ça se passe. Comme ça se passe. On ne peut pas le nier, tout ça. On ne peut pas nier que quand il y a un pays qui est en guerre civile, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est les riches. Vous le savez très bien, regardez le Liban. Tout simplement, par exemple, le Liban, ben oui, mais il y a plein d'autres pays comme ça où les talents s'en vont et c'est ceux qui sont les plus privilégiés et ceux qui sont coincés, c'est ceux qui sont défavorisés. Donc il y a une part de vérité. On ne peut pas le nier, il y a une part de vérité. Mais il y a aussi une part de mensonge parce que l'argent ne met pas à l'abri de tout, et avant tout, ne met pas à l'abri de l'heure suprême qui s'appelle la mort, que Dieu décide envers et contre tout, même si vous vous faites, comme certains milliardaires, cryogéniser ou je ne sais quoi, en espérant que ça ne changera rien. Il y a une mort qui est là et qui est pour les pauvres comme pour les riches, et Dieu décide ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut, quoi qu'on en fasse, quoi qu'on dise. Et il y a aussi un jugement après la mort. Et ce jugement après la mort, ce n'est pas l'argent qui va vous sortir d'affaire face à Dieu, parce que Dieu, on ne l'achète pas. Et vous savez, la fameuse parabole, je lis juste ce passage où Jésus dit à un moment à ce riche, mais Dieu lui dit, insensé, insensé, toi ce riche, toi qui avais des projets, insensé, fou, cette nuit même, ton âme, c'est-à-dire ta vie, te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour qui sera. Donc, insensé, ton âme te sera redemandée. Te redemandée par qui? Par Dieu. Et je vous rappelle l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27, qui dit Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement dernier. Alors, c'est vrai que dans son imagination, c'est une haute muraille. Et le même commentateur a dit que le monde pense que l'invisible est irréel. Pourtant, ce n'est pas l'homme de Dieu, mais c'est bien le riche qui doit faire preuve d'imagination. Et c'est lui, dans son imagination, il dit, eh ben voilà, moi je suis à l'abri, je suis abritée par une haute muraille, mais qui est inefficace face à tout ce qu'on vient de dire. Et j'aimerais vous dire aussi que, bien sûr, qu'il y a d'autres fausses sécurités. Il y a d'autres fausses sécurités. On peut mettre sa confiance dans nos capacités personnelles, et c'est pas mal parfois. On peut mettre sa confiance dans notre force physique, dans nos relations, dans notre sagesse. Il y en a qui mettent leur confiance dans une énergie positive. Ils espèrent qu'il y ait une énergie positive. Ils ont une spiritualité et ils pensent que la force du mental va les aider à surmonter tous les problèmes de la vie. Et ils espèrent un certain secours là-dedans. Et le problème, c'est le test du réel. Le test du réel qui fait que, ben, face à la réalité, ce qui est faux s'écroule et ce qui est vrai reste. Et même nous, je parle pour quelqu'un, pour les gens qui ne sont parfois pas chrétiens, qui n'ont pas Jésus, et ils ont cette fausse sécurité. Et nous avions toutes ces fausses sécurités, mais même pour nous, chrétiens, nous avons la tentation perpétuelle, nous avons la lutte continuelle de lutter contre cette séduction, contre ce mensonge du diable, contre ce mensonge de la terre, de mettre notre confiance dans la fausse sécurité. Parce que nous sommes sur la terre, nous sommes dans la glaise, nous sommes fixés au sol et nous sommes constamment dans un monde matériel qui veut nous faire croire que l'invisible est irréel, que le matériel est réel, alors que c'est l'inverse. Et nous avons besoin, frères et sœurs, de ne pas être comme les gens du monde. C'est difficile d'être équilibré. C'est difficile d'être équilibré. C'est difficile de dire je mets ma confiance en Dieu, mais en même temps je suis obligé de faire attention au quotidien. Parce qu'il y a tellement d'excès dans les deux sens. Il y a des chrétiens qui étaient pleins de bonne volonté, et même des pasteurs, surtout dans les siècles, dans les temps passés, surtout dans les premiers temps de la Pentecôte, pour prendre ça comme exemple, qui étaient tellement spirituels qu'ils disaient c'est pas la peine d'avoir une assurance, c'est pas la peine de s'occuper de la retraite, tout ça. Et puis, bon, ils sont aperçus que c'était quand même une erreur. Mais c'est difficile de ne pas passer d'un extrême à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire, frères et sœurs ? Et j'aimerais vous parler de cette tour forte. Proverbes chapitre 18, verset 10, dit que nous, le juste, le nom de l'Éternel est une tour forte. Nous avons une tour forte. Le nom de l'Éternel. Dans la Bible, le nom de l'Éternel, ça représente sa personnalité, sa personne, ce qu'il est vraiment, c'est sa caractéristique. Dans la Bible, le nom, c'est vraiment la personnalité. C'est cette personne. Et le nom de l'Éternel, le nom de Dieu, celui qui est, celui qui a dit qu'il est éternel, celui qui a dit « je suis », est une tour forte. J'aimerais vous dire, peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne le sait pas au milieu de nous, mais est-ce que tu crois en Dieu ? Est-ce que tu crois en Dieu ? La Bible dit que la création tout entière parle de Dieu. Et Dieu est puissant, Dieu est grand, Dieu est vivant, et il s'est révélé dans la personne de Jésus. Et en Jésus, nous pouvons voir le visage de Dieu, la personnalité de Dieu. Dieu s'est révélé en Jésus. Et quand on regarde Jésus vivre comme il était sur la terre, qu'il était rempli de compassion, qu'il guérissait les malades, qu'il accueillait les faibles, les pécheurs, qui, lorsqu'on le voit mourir sur la croix, pardonnant à ses ennemis, lorsqu'on voit tout cela, on voit la personnalité de Dieu qui se révèle au travers de la personne de Jésus. Amen. Le nom de l'Éternel. Le juste. Le juste à court. Le juste... Exactement, le juste s'y réfugie. Et pour se réfugier dans cette tour, on va venir après en détail sur ce que je veux dire, mais pour se réfugier dans cette tour, il faut être juste. Et dans l'Ancien Testament, il y avait une certaine notion de la justice, mais pour nous qui sommes chrétiens, nous savons que être juste, c'est pour pouvoir se réfugier dans la personne de Jésus, c'est être justifié, avoir reçu la justice de Jésus. Et... nous ne sommes pas justes par nous-mêmes, mais nous sommes justes parce que nous avons cru que Jésus nous a acquittés, nous avons cru dans le sang de Jésus. Amen. Et pour être accueilli dans cette tour dont on va parler, il faut être donc, comme citoyen. Il faut être citoyen de la ville où il y a cette tour. Voilà, alors cette tour forte, c'était une tour, dans l'hébreu, on n'a que deux fois dans l'hébreu, ça s'appelle, si je ne me trompe pas, alors ne vous inquiétez pas, je ne sais pas parler hébreu, hein, Migdal. Et ce mot-là, on le trouve quelques fois dans l'Ancien Testament, mais deux fois seulement, ici et dans un autre passage que je lirai après, pour parler de la protection que Dieu offre. Et cette tour, si vous voulez un peu vous rendre compte à quoi ça ressemblait, ce genre de tour, vous allez prendre le livre des Juges, au chapitre 9, verset 50-51, où il y a encore un récit de guerre, comme il y en a souvent dans l'Ancien Testament. Et quand vous lisez une guerre, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est marqué, Juges chapitre 9, verset 50, « Abimélec marcha contre Thébets. Il assiégea Thébets et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une forte tour, c'est le même terme en hébreu, où ils se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils s'y enfermèrent et montèrent sur le toit de la tour. » Voyez, dans cette époque, on avait des tours qui étaient des espèces de tours très très fortes, des espèces de donjons pour pouvoir s'abriter. Parfois, il y avait même des provisions pour garder en cas de siège. Et c'était des tours très hautes et très fortes. Et là, vous voyez, Salomon, quand il a écrit ce passage, le juste s'y réfugie dans cette tour. Et il a à l'esprit, vous voyez, vous avez une guerre. Vous êtes là, vous avez les paysans qui sont là dans les champs, et comme ça se passait souvent à l'époque, et vous avez les ennemis qui arrivent comme un raz-de-marée, et tout le monde lève la tête, et qu'est-ce qu'ils font? Ils courent, et ils vont se réfugier vers, on disait souvent au Moyen-Âge, dans les villes fortes, dans les remparts, et là ils allaient certainement dans la ville forte, mais surtout le point suprême dans cette tour qui était fortifiée, où c'était une tour extrêmement forte, quasiment invulnérable, très difficile à prendre. Et vous voyez, c'est une image. Nous, chrétiens, nous faisons face, comme le monde, à toutes sortes de guerres, les soucis, les maladies, les calamités, la haine, la persécution, les tentations, le découragement, etc. Et c'est comme un raz-de-marée. Si je vous lis ce que Jésus disait à propos des signes de la fin des temps, Matthieu 24, chapitre 10. C'est marrant parce que quand j'étais jeune, c'est il y a longtemps, on parlait souvent des signes de la fin des temps, même avec excès, parce qu'on trouvait qu'il y avait des signes de la fin des temps un peu partout, quoi, dans tout, on trouvait des signes de la fin des temps. Mais je trouve que maintenant... On n'a jamais été autant dans les signes de la fin des temps. Et c'est marrant, on n'en parle plus beaucoup. Vous comprenez ce que je veux dire un peu? Si vous lisez bien les prophéties, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais enfin, je vous dis ça en vitesse. Si vous lisez les prophéties, quand même, il y a un événement marquant, majeur dans la Bible, qui parle du rétablissement d'Israël dans son pays et de Jérusalem, qui est rétablie comme capitale d'Israël. Ce sont deux points très majeurs, très importants de la prophétie biblique qui sont déjà accomplis, ce qui veut dire que vraiment, on a passé un cap. Je dis ça en passant, parce qu'on peut toujours dire, oui, de tout temps, il y a eu des épidémies, des pandémies, de tout temps, il y a eu des tremblements de terre, de tout temps, il y a eu des guerres, etc., etc. Donc, on peut toujours jouer là-dessus, en disant, ouais, vous avez regardé les chrétiens, il y a 1000 ans, ils disaient déjà que c'était la fin des temps parce qu'il y avait des guerres, des tremblements de terre. On peut dire tout ce qu'on veut. Mais il y a un événement majeur qui s'est passé, c'est en Israël, et ça s'est passé en 1948 pour l'indépendance d'Israël, et puis je ne sais plus en quelle année pour Jérusalem, ça va être en 1970 et des brouettes, ou plus récemment, je ne me rappelle même plus la date. Bref, ça c'est des éléments majeurs de la prophétie qui sont accomplis. Je passe le détail. Et alors Jésus dit, c'est quand même important, Matthieu 24, 10, « Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. » On parle même des croyants. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et verset 9, il disait, verset même 7, on va lire, « Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre, tout cela ne sera que le commencement des douleurs, alors on vous livrera au tourment, etc., etc. Et vous serez haïs de toutes les nations. » Vous voyez, le chrétien fait face à un raz-de-marée d'opposition, de guerre et de problèmes. Et il a une tour forte. qui est la personne de Jésus. Amen. Il a une tour forte qui est la personne de Jésus. Et je reviens à mon verset. 18-10. Le juste s'y réfugie et s'y réfugie. Et dans l'hébreu, ce n'est pas vraiment s'y réfugie. Dans l'hébreu, c'est le juste court. Il court. Il court. C'est normal. Quand il y avait la guerre, les gens ils voyaient les ennemis arriver, ils pensaient bien qu'ils se dépêchaient d'aller se réfugier. Et nous, j'ai envie de te dire, mais n'attends pas, cours dans la bonne direction. Si tu ne connais pas Dieu et que tu es face à tes problèmes et que tu es face au péché, à tout ça, mais cours sans tarder vers Jésus pour te sauver. Et cours pour te réconcilier avec Dieu. N'attends pas, c'est le moment maintenant. Et toi qui es croyant, j'ai envie de dire, prends l'habitude de courir dans le bon sens, dans la bonne direction. Prends l'habitude de courir souvent, afin que lorsque le problème arrivera d'une façon encore plus forte, tu connaisses bien le chemin, tu connaisses bien la bonne direction. Vous voyez ce que je veux dire ? Prends l'habitude de courir vers Jésus dans tes problèmes. Prenons l'habitude, nous avons déjà, mais prenons l'habitude de lorsque nous sommes face aux problèmes, face à l'adversité, face à tous les soucis de la famille, de la maladie, de ce que je ne sais quoi, les angoisses, le chômage, le travail, le manque d'argent peut-être, enfin tout ce qu'il peut y avoir dans la vie du chrétien, eh bien, cours vers Jésus qui est ta tour forte. Cours vers lui. Et alors c'est vrai que parfois, lorsque nous courons vers lui et que nous sommes dans cette tour forte, alors. Parfois, nous sommes face au miracle. Je cours avec ma maladie et je suis guéri. Ça arrive, à gloire à Dieu. Je suis sauvé miraculeusement d'une calamité, d'un accident. Je suis peut-être rétabli financièrement, etc. Et on l'a vécu et on veut le vivre encore. Mais parfois, ce n'est pas toujours comme ça. Et je ne sais pas pourquoi. Parfois, l'épreuve dure. Et ce n'est pas toujours comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on court vers le Seigneur, quelle que soit l'issue, que ce soit d'une façon qu'on l'attend ou d'une façon qu'on ne l'attend pas, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on est réfugié dans ses bras d'amour, on est réfugié en lui, alors nous sommes dans une situation spirituelle qui est que nous sommes dans la victoire sur le péché et dans la paix en lui. Nous sommes en lui, nous sommes dans sa personne, et c'est quand même important. Il se trouve en sécurité. En fait, dans l'hébreu, c'est même mieux que ça. Il se trouve en une position élevée. Il est aidé d'en haut. Et vous savez que Jésus est le grand vainqueur sur tous nos problèmes, sur toutes nos autorités. Ayons la bonne perspective sur la personne de Jésus et sur ce qu'il fait pour nous. Dieu a déployé sa force en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Amen. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout. Le Seigneur est ton grand Seigneur. Il est au-dessus de toutes ses autorités. Et s'il est au-dessus de toutes ces choses-là, il est au-dessus de mes problèmes. Il est au-dessus de tes problèmes familiaux. Il est au-dessus de ma maladie. Il est au-dessus de mes soucis quotidiens. Il est au-dessus de tout cela. Et il veut que je me réfugie en lui, que je me retrouve au-dessus, moi aussi. Parce que, vous voyez, on parlait tout à l'heure des fausses sécurités. Le riche, dans son imagination, il pense qu'il a une haute muraille. C'est écrit comme ça. Dans son imagination, il a imaginé le riche. Lui, il s'est fabriqué son image. Hein. Il a une image. Moi, je suis à l'abri. Et je regarde les gens d'en haut. Je suis dans ma haute muraille. Sauf que la Bible dit le contraire. C'est que c'est le juste qui s'est réfugié dans sa tour, dans la tour de la personne de Jésus, qui, lui, est en une position élevée, qui est en sécurité, et qui, lui, regarde les problèmes de la perspective du Seigneur. Vous êtes d'accord avec ça ? Parfois, il semble... Alors, vous allez me dire, ouais, mais... facile à dire. Tu vivrais ce que je vis ? Plus facile à dire. plus facile à dire qu'à faire. Et c'est vrai. Vous pouvez dire, mais oui, toi, tu ne vis pas ce que je vis. Non. Il n'y a que le Seigneur qui peut comprendre. Et je me suis dit, mais parfois, c'est vrai, c'est facile de parler et de dire, ouais, t'es au-dessus. Mais parfois, on a du mal à être au-dessus. On a beau entendre la parole, on a beau écouter, on a beau lire. Alors c'est vrai, il y a écrit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. » Amen. Le juste y court et se trouve en sécurité, se retrouve au-dessus. D'accord. Ouais, d'accord. Mais Seigneur, tu vois, le problème, c'est que mes problèmes, c'est pas moi qui suis au-dessus du problème, c'est que mes problèmes, ils sont là. Chut. Ça arrive. Et là, j'ai été encouragé parce que, justement, le deuxième verset, le deuxième passage de la Bible, le seul deuxième passage de la Bible où il y a ce mot à propos de la protection de Dieu, se retrouve dans le psaume 61 de David, et au verset 3 et 4. Et je trouve que ça va bien avec notre situation dont nous parlons ce matin, parce que David est dans une situation un peu difficile, très difficile. Là, il a vécu des moments pas faciles, là, on pense que c'est peut-être à l'époque où il fuyait Absalom. On ne sait pas trop, mais certainement. Et bon, il dit « Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. » Ah, on s'y retrouve hein, parfois. Vous criez à Seigneur quand vous avez le cœur abattu hein ?« Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. » Moi, j'ai trouvé que c'était formidable ce verset. Parce que vous voyez, là, on prie, on parle, voilà, on dit, ouais, d'accord. Mais vous voyez, c'est. Là, il dit, David, il dit, Seigneur, oui, d'accord, il y a un rocher, je voudrais bien monter sur ce rocher pour être vraiment au-dessus. Sauf que, Seigneur, moi, ce rocher, j'arrive pas à y grimper dessus. On a une bonne nouvelle. C'est qu'on peut dire au Seigneur, eh bien, tu vois, Seigneur, j'arrive pas à grimper sur ce rocher. Mais toi, tu peux m'y conduire, tu peux m'y porter parce que je n'ai plus la force. Un peu comme quand cet homme, il a dit à Jésus, « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, je n'y arrive pas. Il vaut mieux avoir une parole sincère avec le Seigneur que de faire semblant en disant « Je crois. » Eh bien non, je ne crois pas. Alors, je ne crois pas. Seigneur, aide-moi, porte-moi. Et comme il est écrit, « Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. » Imaginez, je ne sais pas s'il pensait à ça, parce que peut-être que ce n'était pas un marin, David. Il était plutôt sur la terre que sur la mer. Mais bon, il y a des commentateurs qui parlent de la mer, alors je vais en parler comme eux. Imagine le gars qui est naufragé, là, et puis il est sur la plage, et puis il y a l'eau, là, il va se noyer, il y a un rocher, mais c'est trop haut. Voilà, il pense à ça. Je ne sais pas s'il pensait à ça, parce que bon... En tout cas, il pensait à quelque chose. C'est sûr qu'il pensait à grimper sur un rocher et qu'il ne pouvait pas atteindre. Et il a dit, Seigneur, tu peux me porter, tu peux me transporter quand je n'ai plus la force. Amen. Et pourquoi j'ai pris ce verset? Parce que, juste après, verset 4, il dit, « Car tu es pour moi un refuge, une tour forte. » C'est le même verbe, le même mot, Migdal. « Tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. » Et c'est sur ça que je termine. Cette tour forte, comment faire la différence? Comme je le disais tout à l'heure, la différence se voit dans la réalité. Si vous voulez faire la différence entre un vrai croyant et un faux croyant, si vous voulez faire la différence entre une vraie foi et une foi de contrefaçon, attendez la réalité de la vie et les vrais problèmes de la vie. Et c'est là que vous avez beaucoup de surprises. Et que ceux qu'on pensait qu'eux ne sont pas ceux qu'on pensait qu'eux. Vous comprenez? Et on a des surprises. On est toujours surpris. Le Seigneur, il rigole, il rit, lui. Il dit, ah, tu pensais que? Mais voilà, non. Eh bien non, il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs. Et vous voyez, quand tout va bien, c'est très facile de faire illusion. C'est très facile d'être un faux chrétien. Et c'est très facile, en période de prospérité, de dire que le matérialisme est la solution à tout. Mais quand vous avez un krach boursier comme il y a eu en 1929, c'est ça, 30, le fameux krach, que vous aviez les boursicoteurs aux États-Unis qui se jetaient par la fenêtre des gratte-ciel parce qu'ils avaient tout perdu en une nuit, c'est là que vous voyez la différence entre le vrai croyant et le faux croyant. Et entre le monde aussi et l'Église. On ne cherche pas, mais malheureusement, le test final, il est là, il est dans la réalité. Et j'ai envie de vous dire aussi que le test final, il est aussi face à la mort. Parce que Jésus nous a délivrés de la crainte de la mort. Parce qu'il a vaincu la mort. Et parce qu'il a vaincu la mort, eh bien, le test final, il est aussi face à la mort. C'est là que tous les comédies, toutes les apparences, tout ce qui est faux s'écroule. Parce qu'à un moment, quand vous mourrez, je pense, parce que je ne suis jamais mort, donc je ne peux pas parler d'expérience, mais quand vous mourrez, vous êtes seul. Sauf que quand vous avez Jésus, vous n'êtes pas seul. Amen. Je vais vous donner une nouvelle, ce n'était pas prévu, mais j'ai fait une découverte il n'y a pas longtemps, une grande découverte. Vous connaissez tous par cœur le psaume 23. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce n'est pas bien traduit, tout à fait. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas vraiment ça. C'est quand je marche dans la vallée la plus sombre, la vallée sombre de la mort. Je suis dans le noir absolu. Même si je suis dans le noir absolu, quand je marche dans la vallée de la mort et quand dans la vallée très sombre de la mort, et ça arrive parfois aux croyants, eh bien, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Alors, vous voyez, parfois, on peut se trouver autour de nous, on peut voir que tout s'écroule. Il y a des moments dans la vie ou dans le monde où toutes les références tombent. Parfois, on est déçu. Vous pouvez être déçu par les uns et par les autres. Vous avez parfois pris quelqu'un comme référence, comme modèle, et vous le voyez tomber. Et vous disiez, vous êtes déstabilisé. Vous dites, mais où sont mes références? Où sont? Qu'est-ce que c'est qui se passe? Et vous voyez parfois la crainte qui s'installe partout, la crainte autour de vous, et aussi bien à cause de la pandémie, mais aussi bien à cause d'une crise économique, de toutes sortes de choses. Ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être une guerre, parce qu'il y a plein de pays en guerre, et vous êtes chrétien, vous êtes dans un pays en guerre. Vous voyez? Et Jésus n'a pas caché tout cela. Il a dit, mais à la fin des temps, beaucoup succomberont, tomberont. Ils se trahiront. Vous parlez des croyants. Ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Il ne parlait pas des païens. Et vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire si lui il est tombé, est-ce que moi je vais tenir? Ben oui, parce que tu as une tour forte. Parce que ce n'est pas toi qui te tiens. Dieu, c'est Dieu qui te tient. C'est pas toi la racine, c'est lui la racine. Nous sommes le sarment greffé sur le cep. C'est bien ça qui est écrit, non? J'ai pas lu. Vous êtes d'accord? On n'a pas lu que Dieu est greffé sur nous. Hein, c'est pas ça qu'on a lu. Hein. C'est pas ça. On a lu le contraire. C'est bien lui qui nous tient. C'est bien écrit dans la Bible. Enfin moi j'ai bien lu que j'ai bien lu dans ma Bible que c'est Dieu qui me tient. C'est pas moi qui le tient. J'ai pas lu que Dieu il tient. Celui qui est fort, qui est intelligent, qui est super capable. Non, il n'a pas dit ça. Hein. Il a bien dit que Dieu, il tient celui qui lui appartient. Vous êtes d'accord? Et même que Jésus, il a dit, et je termine complètement, il a dit, mais mes brebis ne... Vous êtes des brebis du Seigneur? J'ai cru que vous alliez me répondre, ben... Excusez-moi. Mes brebis, donc les brebis, parce que nous sommes, c'est une image, bien sûr, hein, il parle des chrétiens, mes brebis, parce que Jésus est le bon berger, mes brebis ne périront jamais, mes brebis ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher à ma main. Oh, la bonne nouvelle quand même. Et mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Oh, c'est pas une bonne nouvelle, ça? On se sent faible, on est imparfait, on a des défauts, on a des problèmes, on a des doutes, on a des défaillances, on a des lacunes, on est imparfait, on n'y arrive pas, on n'est pas les super chrétiens, on n'est pas Hudson Taylor, on n'a pas évangélisé les Chinois, mais on est les brebis du Seigneur et le Seigneur s'est engagé à nous garder jusqu'à la fin. Gloire à Dieu! C'est une bonne nouvelle que je vous apporte ce matin, frères et sœurs. Merci, Seigneur, pour ta bonté, Seigneur, pour ta compassion envers nous. Merci pour parce que tu es plein de compassion pour ceux qui te craignent. Il est écrit dans ta parole que tu ne brises pas le roseau froissé, tu n'éteins pas le lumignon qui fume. Tu es plein d'amour pour nous, Seigneur, dans nos faiblesses, dans nos lacunes. Tu t'es engagé à nous garder jusqu'à la fin. Quelle belle nouvelle, quelle bonne nouvelle que ton amour, Seigneur Jésus. Amen.